Alors, le sujet de ma communication porte sur la constitution écologique, hein, ce beau rêve, comme disait Thomas Perrot tout à l'heure. Alors, lorsqu'on évoque ce projet, on le présente comme celui qui a impliqué un important saut en avant, notamment dans le domaine environnemental. Ce projet, d'ailleurs, n'a pas manqué d'enthousiasmer, pardon, les défenseurs de la nature, tant au Chili que dans le monde entier. Alors, le texte de constitution de 2022 est en rupture radicale avec la constitution de 1980 actuellement en vigueur. Cette rupture n'a pas été difficile d'acquérir puisque celle de 1980 reste assez muette sur la nature et notamment sur l'écologie. Mais en outre d'être en rupture, le texte il est qualifié d'écologique ou vert par la doctrine, puisqu'il opère un changement radical de paradigme, changement qui était impensable il y a encore quelques années. Et plus précisément, ce texte, il propose de passer d'une logique de domination et d'exploitation de ressources naturelles très présente dans la Constitution de 1980, hein, si on pense uniquement à l'exemple de l'eau qu'on vient de voir. Donc, il propose de passer de cette logique de domination à une logique de buen vivir, qui est précisée à l'article 8 du texte de 2022. La consécration du buen vivir, de cette philosophie des peuples autochtones, des peuples originaires, implique une transformation de toutes les institutions de l'État qui doivent composer avec le nouveau paradigme. En effet, la présence des représentants des peuples originaires au sein même de l'Assemblée constituante a permis justement d'instaurer un débat sur ce principe, sur cette philosophie, et au final de l'intégrer au sein du texte de 2022. Alors, le bon vivir, comme l'indiquent les auteurs du texte, est basé sur un principe de bonne coexistence et d'interdépendance entre les êtres humains et la nature. Et ce principe, ce concept de bon vivre philosophique, il est défini au sein même du texte, à l'article 8, comme une relation harmonieusement équilibrée entre les personnes, la nature et l'organisation de la société. D'ailleurs, dans le prolongement de cette nouvelle approche, dans la manière d'appréhender la nature, le texte de 2022 ne fait ce qui est quand même assez fort, ne fait jamais référence à l'expression très connotée, car utilitariste et anthropocentrée, de ressources naturelles. Donc, à aucun moment dans le texte, ce terme n'y figure. Alors, dès le premier article du projet, l'identité écologique de l'État chilien est assumée. Article 1.1 du texte affirme clairement le Chili est un État de droit social et démocratique. Il est plurinational, interculturel, régional et écologique. Toujours dans le même article, donc le premier, le projet insiste sur le fait que les êtres humains entretiennent une relation indissoluble avec la nature, tout en affirmant un peu plus loin, dans l'article 8, que les personnes et les peuples sont interdépendants de la nature et forment avec elle un tout indissociable. Autrement dit, le texte de 2022 contient environ 70 articles hein, qui abordent de manière directe la question de l'écologie, de la nature et de l'environnement. Donc, c'est quand même un pas en avant assez fort de ce point de vue-là. Alors, pourquoi avoir fait ce choix d'écrire une constitution qui est qualifiée d'écologique? En tout cas, le texte de 2022 est qualifié étant fortement écologique. L'explication, les explications, on peut les trouver un peu dans le processus également constituant, mais on peut aussi trouver cette explication dans la vulnérabilité très marquée du Chili face aux crises climatiques et écologiques de par sa situation géographique et son modèle économique. Vous connaissez tous, le Chili est un pays qui est tout en longueur. Il a 4 000 km de long, une largeur moyenne de 200 km, un pic est inséré entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. comprenant un désert, des vallées, des régions lacustres, puis la terre de feu. Le Chili donc abrite certains des climats les plus extrêmes du monde. Au nord, on a le désert, qui est le plus aride du monde, et au sud, la deuxième la plus grande étendue de glace extrapolaire contenue du monde. Par ailleurs, le Chili possède l'un des plus grands littoraux du monde, un littoral vital pour des dizaines d'espèces marines qui migrent chaque année du nord au sud. Et sur une superficie continentale de 750 000 km², seul le tiers est cultivable. Donc, il y a une pauvreté en termes de terres fertiles au Chili, le reste étant occupé par le désert et par la cordillère des Andes. En outre, l'économie chilienne repose principalement sur des industries qui sont nuisibles à la nature, telles que l'exploitation minière, hein, notamment avec les mines de cuivre, mais pas seulement, avec l'élevage de saumon, l'industrie du bois. Le Chili compte également plusieurs zones dites sacrifiées, c'est-à-dire les zones qui sont considérées comme trop polluées pour être sauvées. Donc, face à ça, il n'est pas difficile d'imaginer les effets que l'augmentation des températures et du niveau de la mer pourrait avoir sur le pays. L'explication peut également se trouver du côté du projet et surtout du côté des travaux réalisés par l'Assemblée constituante, composée des représentants de l'ensemble de la société civile. De par sa composition, cette Assemblée a permis d'instaurer et de privilégier le débat sur des questions environnementales, mais pas que, au détriment du consensus qui était la règle jusqu'alors. D'ailleurs, plusieurs membres de l'Assemblée constituante étaient des représentants des peuples originaires et d'autres membres de l'Assemblée constituante étaient impliqués auparavant, donc avant leur élection, étaient impliqués de manière active dans le cadre des associations, dans le cadre des réseaux, luttant contre les injustices environnementales. Et cette composition, ses membres surtout, ont contribué de manière déterminante à la construction collective de la proposition de nouvelle constitution de 2022. Alors, quelles sont les innovations en matière d'environnement inscrites au sein de ce texte qui lui donne cette qualification de constitution écologique? Alors que tout d'abord, les innovations doivent être identifié du côté des droits fondamentaux de nature environnementale, bien évidemment, mais également du côté des droits classiques hein, qui vont se voir dotés d'une dimension écologique. Alors tout d'abord, concernant les droits environnementaux dits classiques, ce texte de 2022 affirme le droit, on va dire le premier des droits environnementaux, le droit de toute personne à un environnement sain et écologiquement équilibré. Déjà, rien que dans la formulation de ce premier droit environnemental, on voit une innovation par rapport à la Constitution de 1980, puisque cette dernière reconnaît seulement le droit de vivre dans un environnement libre de pollution. Donc, un droit qui a un champ d'application très limité par rapport à la proposition de 2022. Ce texte de 2022 reconnaît également d'autres droits environnementaux de nature procédurale, mais aussi substantielle, comme le droit d'accéder aux informations environnementales, le droit de participer à la prise de décisions publiques en matière environnementale, le droit de toute personne à un air pur tout au long de sa vie. Bien sûr, dans le domaine sensible de l'eau, il y a une reconnaissance du droit humain à l'eau et à l'assainissement. L'eau est également reconnue comme faisant partie de cette nouvelle catégorie juridique consacrée dans ce texte, à savoir les biens communs naturels qui ne peuvent pas être appropriés, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation. Par ailleurs, ce texte de 2022 pose une obligation à l'égard de l'État pour garantir ce droit à l'eau en disant qu'il faut le garantir tant dans l'intérêt des générations actuelles que dans l'intérêt des générations futures. Donc, on voit que, y a une dimension, le concept même de solidarité intergénérationnelle est consacré au sein de ce texte de 2022. Alors, parmi les droits les plus originaux qu'on peut souligner, ces droits les plus originaux déjà se retrouvent dans le chapitre 3 du projet d'une constitution nouvelle de 2022, chapitre 3 qui est dédié à la nature et à l'environnement. Et au sein de ce chapitre, on voit notamment que la nature se voit reconnaître des droits, et plus précisément le droit au respect et à la protection de son existence, le droit de sa régénération, le droit de la préservation, de la restauration de ses fonctions et équilibres dynamiques, y compris les cycles naturels, les écosystèmes et la biodiversité. On voit quand même que la nature, même si elle se voit reconnaître des droits, le projet de 2022 ne va pas on va dire jusqu'au bout de la logique, puisque de bonne vivre, de la philosophie de bonne vivre, puisque la nature ne se voit pas reconnaître la qualité de sujet de droit. Il n'y a pas de reconnaissance de la personnalité juridique à la nature et à ses composantes. Notre droit original qu'on peut souligner est le droit d'accès à la nature, qui est un droit bien présent, notamment dans les systèmes juridiques scandinaves. Et c'est un droit qui est défini de la manière suivante dans le texte de 2022. Il est indiqué que chacun a le droit d'accéder de manière responsable et universelle aux montagnes, aux berges des rivières, à la mer, aux plages, aux lacs, aux lagunes et aux zones humides. Ce droit d'accès à la nature apporte une véritable limitation aussi au droit de propriété, justement dans une dimension écologique, mais aussi dans une dimension de santé, hein, santé humaine plus généralement. Un autre droit original, c'est le droit des animaux à vivre une vie sans mauvais traitement, le texte consacrant ainsi la sensibilité animale, ou encore le droit à une alimentation saine et adéquate, le droit à un minimum vital énergétique abordable et sûr. Et il est également original de voir que certains droits sociaux, du type le droit à l'éducation, ce droit à l'éducation va se voir doté d'une fonction écologique, puisqu'il est indiqué que le droit à l'éducation va avoir comme une mission de développer chez chacun des élèves une conscience écologique. Un peu plus loin, le texte de 2022 précise de manière générale que la loi pourra établir des restrictions à l'exercice de certains droits afin de protéger l'environnement et la nature. Alors, cette disposition constitutionnelle n'est pas novatrice par rapport à la Constitution de 1980, puisque au sein de la Constitution actuelle, on a déjà cette disposition, mais la nouveauté se trouve dans l'ajout du terme nature. Donc, la loi peut apporter des restrictions à l'exercice de certains droits afin de protéger l'environnement et la nature. On voit cette dissociation entre environnement et la nature qui est très présente au sein du texte de 2022 pour montrer le caractère fortement écologique, mais également éco-centré du texte. Le texte précise également que la propriété, hein, quelle que soit, publique ou privée, doit avoir une fonction écologique. Donc, il y a une finalité hein, qui est donnée à la propriété, et parmi ces finalités, il y a cette finalité écologique. C'est une obligation, mais le texte ne va pas un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il ne va pas préciser en quoi consiste cette fonction écologique. Néanmoins, si on lit le texte de 2022 dans son ensemble, si on procède à une lecture systémique du texte, cela vise à limiter l'exercice notamment du droit de propriété afin de permettre la mise en place de diverses politiques publiques, notamment en matière sociale. Et ce qui est aussi frappant au sein de ce texte, c'est de voir que certaines libertés économiques vont se voir restreindre, limitées par cette exigence de protéger la nature. Le texte précise notamment que la liberté d'entreprendre doit être compatible avec la protection de la nature. Donc, il y a clairement une limitation dans l'exercice de cette liberté du moment où la protection de la nature n'est pas assurée. À côté de nouveaux droits ayant une dimension écologique, le texte reconnaît également des devoirs très nombreux qui incombent à l'État justement pour garantir tous ces droits. Alors, je ne vais pas énumérer tous ces devoirs parce que la liste, elle est très, très longue. Je peux uniquement citer quelques devoirs assez frappants. Et plus précisément, il est indiqué au sein de ce texte que l'État a le devoir de conserver, de préserver et de prendre soin des écosystèmes marins et côticontinentaux, insulaires et antarctiques, en favorisant les diverses vocations et utilisations qui leur sont associées et en assurant dans tous les cas leur préservation, leur conservation et leur restauration écologique. Ou encore, l'État a le devoir de réguler et de promouvoir la gestion, la réduction et la valorisation des déchets. Bon, il est curieux quand même de voir un peu l'absence de la mention de recyclage des déchets, hein. Mais déjà la gestion de déchets qui incombe à l'État est en soi une innovation par rapport à la Constitution de 1980. Ou encore, il est indiqué que l'État, en tant que gardien des zones humides, des forêts autochtones et des sols, assurera l'intégrité de ces écosystèmes, de leurs fonctions, de leurs processus et de leur connectivité hydrique. Par ailleurs, en matière de crise climatique et écologique, il y a un devoir très fort qui est reconnu au sein de ce texte, qui est le devoir, donc pour l'État, d'adopter des actions de prévention, d'adaptation et d'atténuation des risques, des vulnérabilités et des effets causés par la crise climatique et écologique. Et à ce titre, justement, l'État, il doit protéger la biodiversité en préservant, conservant et restaurant l'habitat des espèces sauvages autochtones dans la quantité et la répartition suffisante pour assurer la viabilité de leur population et garantir les conditions de leur survie et de leur non-extinction. Ou encore un devoir de garantir la démocratie environnementale, hein, qui est un devoir, hein, également inscrit au sein de ce texte, ou le devoir d'établir une politique de manière un peu plus générale, une politique permanente de développement durable en harmonie avec la nature. Donc, une liste de devoirs très, très longue, de devoirs incombant à l'État en matière de protection de la nature et de l'écologie. Du côté des principes, il y a bien sûr les principes classiques qui sont reconnus, principes de précaution, prévention, mais l'originalité consiste vraiment dans la reconnaissance constitutionnelle des principes propres aux États d'Amérique latine, comme par exemple le principe de progressivité, le principe de justice environnementale, de solidarité intergénérationnelle, ou encore le principe d'action climatique équitable. Et pour garantir tous ces droits, le texte met en place, crée une action constitutionnelle en protection des droits de la nature et des droits environnementaux. Donc, on voit qu'il existe une garantie, hein, constitutionnelle pour protéger ces droits, l'action constitutionnelle, qui peut être introduite soit par le défenseur de la nature, soit par toute personne ou groupe. Donc, il n'y a pas cette limitation de l'interagir qu'on peut avoir dans les États occidentaux. Le dommage environnemental est également régi au sein de ce texte, puisqu'il est indiqué que quiconque porte atteinte à l'environnement a le devoir de le réparer, bien évidemment. Alors, autre innovation en matière écologique. Du moment où le projet de nouvelle constitution de 2022 change de paradigme pour adopter la philosophie de bon vivre, bien évidemment, cela va impliquer une transformation des institutions de l'État. Et à ce titre, le texte il est clair, il est indiqué que l'État doit adopter, je cite, une administration écologiquement responsable. Donc ça, c'est une disposition générale par rapport à cette transformation des institutions de l'État. Les entités territoriales ont le devoir d'établir une politique permanente d'équité territoriale, mais aussi de développement durable en harmonie avec la nature. Et les entités infranationales, les divisions territoriales, vont se voir octroyer des compétences en matière environnementale jusqu'alors absente. On assiste aussi à la création de nouvelles institutions dans ce domaine, par exemple le Défenseur de la nature, ou encore la création de l'Agence nationale de l'eau, ou encore la création du Conseil national de bioéthique. Le texte, il va également régir de manière très détaillée certains secteurs et, on va dire, certains éléments de la nature. Bien sûr, il y a la catégorie des biens communs naturels qui est régie de manière très détaillée, comme l'a bien montré Thomas Pérou, mais aussi tout ce qui concerne le statut de l'eau. Donc, ça fait partie des dispositions bien spécifiques, très, très détaillées. L'exploitation maritime, l'énergie ou encore l'exploitation minière font l'objet des dispositions plus ou moins précises. Alors, même si des innovations peuvent être soulignées, saluées au sein de ce texte de 2022, il y a quand même des innovations qu'on peut relativiser. En tout cas, dans certains domaines, le texte n'apporte pas grand-chose par rapport à l'état de droit actuel et ne va pas plus loin que la Constitution de 1980. D'ores et déjà, on peut aussi remarquer qu'au sein de ce texte, on trouve deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a des dispositions constitutionnelles très, voire trop précises dans certains domaines. C'est une caractéristique de nombreuses constitutions des États d'Amérique latine. Mais de l'autre côté, certains articles, certaines dispositions restent assez vagues. Flou, comme par exemple c'est le cas de la fonction écologique de la propriété hein, qui n'est pas vraiment définie, ou encore comme c'est le cas du principe de bon vivre hein, qui est défini mais assez rapidement et comparé notamment à la constitution de l'Équateur, on reste un peu on reste sur notre faim lorsqu'on on voit ça, on voit comment ce principe est défini à l'article 8. Par ailleurs, si le texte consacre des droits de la nature, comme je disais, il ne va pas jusqu'à reconnaître la personnalité juridique à celle-ci ou encore à ses composantes. Sur ce point, le texte n'a pas choisi la voie des autres États d'Amérique latine, hein, qui sont considérés comme étant précurseurs dans l'approche concentrée de la protection de la nature, comme c'est le cas de la Bolivie, de l'Équateur ou encore la Colombie. Et dans certains domaines, on peut voir que le texte de 2022, en fait, il n'apporte pas grand-chose par rapport à la Constitution de 1980, notamment dans le domaine minier. Et bien évidemment, les mines représentent un enjeu économique très important au Chili, hein, notamment les mines de cuivre. Puisque le Chili est le premier exportateur mondial de ce minerai, environ 36% du marché mondial est détenu par le Chili. Et le Chili dispose également d'autres ressources minières très importantes, des mines en or, argent, lithium qui est très convoité pour les nouvelles technologies, entre autres. Et donc l'importance de ces ressources souterraines est telle qu'un article, de la Constitution actuelle l'aurait consacré. Et si on compare cet article de l'actuelle Constitution avec le texte de 2022, en fait, il n'y a pas de nouveauté. Et plus précisément, il est indiqué que l'État, la propriété absolue, exclusive, inaliénable et imprescriptible sur toutes les mines. Bon, à l'exception des argiles superficielles, nonobstant la propriété des terrains sur lesquels ils sont situés. Et même si les débats sur cette question, sur la question des mines, ont été et continuent d'être assez importants, le principe même de la régulation des minéraux et les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui sont déjà présents dans la Constitution de 1980, ont été repris au sein du texte de 2022. Bon, bien sûr, hein, le texte de 2022, il va un petit peu plus loin, hein, que la Constitution actuelle, en indiquant que certains espaces, tels que les glaciers, les zones protégées, sont exclus de toute activité minière. Mais il n'y a pas de véritable révolution, on va dire, sur la question minière. Et enfin, pour relativiser également ces innovations, lorsque le texte de 2022 consacre l'existence de la justice environnementale, notamment des juges spécialisés en matière environnementale, on peut dire que ce projet n'apporte rien de nouveau, étant donné que des tribunaux environnementaux existent au Chili, et cela depuis 2012. Donc, il ne s'agit pas de nouveautés par rapport à ça. C'est juste que le projet, il permet leur constitutionnalisation. Donc, les tribunaux environnementaux compétents, notamment en matière de préjudice écologique. Donc, le projet va uniquement permettre leur constitutionnalisation. Donc, de ce fait, le législateur, dans ce cas, il ne peut pas les supprimer, hein. Et surtout, le texte constitutionnel, donc, le projet de 2022, impose leur création dans chaque région du pays, ce qui n'est pas encore le cas. Mais le principe même d'une justice spécialisée en matière environnementale n'est pas vraiment une innovation. Et donc, quelle suite sera donnée à toutes ces innovations en matière environnementale qui sont bien présentes au sein du projet de 2022? Alors, si certains auteurs restent assez pessimistes, hein, sur l'avenir de ces innovations dans le futur texte, puisque dans la forme que le fond de la suite du processus constituant chilien ne laisse pas beaucoup d'espoir, d'autres auteurs restent optimistes en considérant que le texte de 2022 a mis en place en quelque sorte un minimum acquis environnemental qui sera repris dans les grandes lignes par la commission d'experts. Alors, le suspense sera levé bientôt, hein, et s'il va être levé bientôt, il convient néanmoins d'affirmer que malgré le rejet du texte par le peuple chilien en septembre 2022, il est quand même déjà entré dans l'histoire constitutionnelle. Il est déjà entré dans l'histoire constitutionnelle en montrant la voie vers un constitutionnalisme environnemental, voire vers un constitutionnalisme du vivant, pour reprendre l'expression du professeur Xavier Magnon. Et c'est un texte qui ouvre le champ des possibles et on pourra s'en inspirer. Je vous remercie pour votre attention.